Le regard en musique. Christian Rivet, le directeur artistique du Vent sur l'Arbre, est un fin musicien et aussi un poète. Et c'est animé de cette poésie qu'il a choisi pour fil d'Ariane de cette édition 2018, Le regard. Le regard en musique, bien sûr. Pas le regard, t'as de beaux yeux, tu sais, de Jean Gabin à Michel Morgan dans Quai des Brumes. Un regard intérieur, une représentation mentale, une contemplation, un regard moderne sur une musique ancienne, un regard moderne sur une musique moderne, des œuvres qui invitent, tout autant qu'à nous émouvoir, à nous représenter des couleurs et des lignes, des jaillissements et des ombres, d'infinies variations de lumière, qui sont autant de tableaux sonores à contempler avec les oreilles, en ressentant intérieurement une vision, une évocation. Des musiques qui ont l'oreille picturale. Claude Debussy avait l'oreille picturale. Son inspiration, il la puisait dans la poésie, mais aussi dans la peinture, celle de son époque, en particulier les peintres symbolistes, Klimt, Munch, Böcklin, Maurice Denis, le pré-raphaélite Burne-Jones, sans oublier Manet, Renoir ou le peintre japonais Hokusai. Les images, Debussy dit les aimer presque autant que la musique, et ces images deviennent des œuvres musicales aux titres évocateurs, la mer, nuages, images, estampes. Non pas qu'il ait l'intention de faire la version musicale d'un tableau en particulier, non, il crée ses propres tableaux sonores, dans lesquels il traduit les dégradés de couleurs des peintres par des timbres et des harmonies d'une grande variété, aussi bien au piano qu'à l'orchestre. C'est pourquoi dans ces préludes, les titres sont placés à la fin de chaque pièce, précédés de points de suspension. La liberté de trait des peintres symbolistes se retrouve chez Debussy dans la façon qu'il a de s'affranchir des formes académiques. L'art d'Orient, l'arabesque de la musique et de la peinture arabe, la gravure et la peinture japonaise, lui inspire des harmonies exotiques et des arabesques mélodiques. Lorsqu'il choisit un sujet, il peint non la chose en elle-même, mais l'effet qu'elle produit. Debussy compose une musique d'une grande sensualité sonore. Pour lui, je le cite, « Seul le plaisir est la règle ». Debussy a l'œil qui sait écouter et l'oreille qui sait voir. Un peu plus tard, au début du XXe siècle en Autriche, Arnold Schönberg, qui est peintre autant que musicien, entame une démarche musicale plus intellectuelle que sensuelle. Il se dit « Et si la musique, plutôt que mélodie et harmonie, était plutôt timbre, couleur sonore, jeu subtil de clarté et d'ombre que l'on agencerait savamment avec finesse ?» Ainsi naît la musique dodécaphonique, directement en relation avec le travail du peintre Vassili Kandinsky, qui, lui, tente de donner à ses toiles un déroulement musical au moyen d'un parcours à travers les couleurs et les lignes et, pour ce faire, abandonne toute ressemblance avec le réel. Ainsi naît la peinture moderne. Pour Kandinsky, comme pour Schönberg et ses successeurs, Berg, Webern, la question n'est plus « qu'est-ce que ça représente ?» mais « que voient mes yeux ?» ou « qu'entendent mes oreilles ?» Autrement dit, il faut se laisser guider par les phénomènes visuels ou auditifs pour suivre l'artiste dans son chemin créatif. Ce que le compositeur Richard Strauss, l'auteur de tous ces opéras post-romantiques un peu décadents que sont Salomé, La femme sans ombre ou Le chevalier à la rose, refusait de comprendre. Au début, il encourage le jeune Schönberg, mais lorsqu'arrivent les pièces pour orchestre de 1919, il refuse de les diriger, il les trouve trop osées. Schönberg lui explique alors « Il ne s'agit que de sonorité et d'atmosphère, sans rien de symphonique, mais tout le contraire. Aucune architecture, aucune construction, rien qu'une suite ininterrompue, éternellement changeante, de couleurs, de rythmes et d'atmosphère. » Schönberg voulait que sa musique se rapproche des principes de la nouvelle peinture, ce que Strauss, héritier du XIXe siècle romantique, ne pouvait pas admettre. Il aurait dit plus tard que seule la psychiatrie pouvait venir en aide à Schönberg, ce que la veuve de Gustav Mahler, Alma, s'empressa de répéter au compositeur. Au XXe siècle, bien des peintres et des musiciens se sont rencontrés pour des aventures théâtrales, par exemple Picasso et Satie pour le ballet surréaliste Parade qui a fait un magnifique scandale en 1917, ou Chagall et Stravinsky pour la deuxième version du ballet L'Oiseau de Feu pour les ballets russes de Serge Diaghilev. Un peintre comme Joan Miró s'inspirait de la musique. Il l'écoutait religieusement dans une grande concentration. Et puis, il rejoignait son atelier et peignait dans le silence. Il allait au concert du domaine musical à Paris, qui proposait la musique d'avant-garde des années 50-60, Boulez, Stockhausen. Peintre cosmique, il admirait la musique cosmique de Stockhausen, elle lui parlait. Pour Olivier Messiaen, ça n'était pas la peinture qui l'inspirait. Synesthète comme Miró, il voyait les couleurs des accords, ou entendait des accords lorsqu'il voyait des couleurs. C'était un moderne qui aurait voulu vivre au temps des cathédrales. Alors ce n'est pas un hasard s'il avait absolument tenu à ce que son œuvre pour orchestre « Et expecto resurrectionem mortuorum » soit créée à la Sainte-Chapelle de Paris. « Au milieu des plus beaux vitraux de Paris », écrivait-il, « dans un lieu où la lumière s'irradie dans les bleus, les rouges, les ors, les violets extraordinaires ». Pas un hasard non plus si, pour composer des canyons aux étoiles, il puise son inspiration dans les paysages américains de l'Utah, et je le cite, dans les formidables rochers de Bryce Canyon, teintés de toutes les nuances possibles de rouge, d'orange et de violet, ces formes étonnantes provoquées par l'érosion, formes de châteaux, de tours, de ponts, de fenêtres, de colonnes, où le silence total n'est troublé que par le chant des oiseaux. Les canyons, œuvres géologiques, ornithologiques et astronomiques, dit l'auteur, œuvres avant tout religieuses, faites de louanges et de contemplation. La contemplation, c'est également le sujet de ces 20 regards sur l'enfant Jésus. Dans cette œuvre, certains regards nous dépassent, sont plus grands que nous, voient plus loin que nous. C'est une œuvre portée par une vision puissamment mystique. Parmi les compositeurs à l'honneur cette année, Éric Tanguy a révélé que c'est en regardant les peintures de Caravage à Rome, tellement expressives et presque dérangeantes parce qu'elles ne font aucune concession, qu'il s'était posé la grande question « Qui suis-je vraiment ?» et « Quel est le langage musical qui traduira le mieux qui je suis ?» Kaya Saariaho, elle, s'est concentré sur le vol des oiseaux et leur trajectoire pour composer l'aconisme de l'aile pour flûte. Kaya Saariaho, qui a étudié le dessin et la peinture avant de commencer à composer. Quant à Edgar Varèse, son œuvre musicale est proche de l'œuvre picturale de Fernand Léger, ce peintre cubiste qui montre une société déshumanisée. La lumière est aussi un élément visuel important que les compositeurs des XXe et XXIe siècles cherchent à traduire en musique. Peut-être certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir dans les années 1970 le polytope de Yanis Xenakis. Moi, je l'ai vu au musée de Cluny à Paris, allongé par terre, regardant au plafond gothique un son et une lumière inédits, fascinants. Akira Nishimura, dans nombre de partitions, notamment Pulses of Light pour Quatuor à cordes qu'a joué le Quatuor Van Kuyk. La compositrice roumaine Doina Rotaru, elle aussi préoccupée de lumière sonore, nous a offert, sous les doigts et le souffle de Mario Caroli, une œuvre pour flûte en 5 tableaux, Jyotis, qui symbolise la lumière dans la philosophie indienne. 5 tableaux qui sont autant de déclinaisons de lumière. Je citerai aussi au passage les relations étroites entre les peintures de Paul Klee, qui était lui-même musicien, et la musique de Pierre Boulez. Si l'on évoque l'influence du visuel sur le sonore, il faut se souvenir aussi du grand Henri Dutilleux, arrière-petit-fils du peintre Constant Dutilleux qui était un grand ami de Delacroix. Il disait Henri Dutilleux « La littérature et la peinture sont comme de la nourriture, j'en ai besoin. Lorsque je lis un beau texte, roman ou poésie, j'en suis habité. » Chez Van Gogh, il y a quelque chose qui pousse à la réflexion, quelque chose qui m'inspire. » Et Henri Dutilleux poursuit « Les chocs émotifs que provoquent certaines œuvres littéraires ou picturales déterminent souvent un premier geste musical. Ainsi, dans timbre, espace, mouvement, il y a un travail de l'espace et des couleurs, parce qu'il s'agit de cela en peinture, mais aussi du mouvement dans le ciel de la toile de Van Gogh. De quelle toile parle-t-il ? De la célèbre Nuit étoilée, qui représente un ciel sur le Rhône, au premier plan un cyprès, derrière le village de Saint-Rémy-de-Provence, et ce ciel étoilé, ses volutes et ses tourbillons ressemblant à des nébuleuses, ce halo qui entoure la lune et les étoiles. C'est ce geste, cette atmosphère particulière que Dutilleux sent vibrer en lui avant de construire sa propre Nuit étoilée, où l'orchestre prend les couleurs, les courbes et les mouvements de la toile. Je pourrais citer d'autres exemples. C'est que le lien est fort entre l'art du regard et l'art de l'écoute, particulièrement depuis le XXe siècle. Pourtant, on pourrait se dire que tout les oppose. La peinture est immobilité, la musique est mouvement. La peinture est éternelle, la musique est éphémère. Mais non, en réalité, leur regard est commun, puisque la peinture devient mouvement et que la musique devient couleur. Et cette relation particulière que le son et la lumière entretiennent vient de ce qu'ils sont régis par des lois identiques, bien que diverses dans leur mode d'expression. Ça n'est pas un hasard si les deux arts partagent le même vocabulaire. Couleur, tonalité, valeur, éclat, nuance, gamme, contraste, harmonie, chromatisme, composition, étude, facture, matériaux, modulé, motif, série, texture, et celui que je préfère, repentir, qui désigne dans les deux domaines les retouches et les corrections que le créateur apporte à son œuvre. Ce rapprochement entre les sons et les couleurs ne date pas d'hier. Pythagore, déjà à la suite d'Aristote, qui tente de justifier rationnellement leur correspondance. Au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, Isaac Newton, lorsqu'il découvre que la lumière blanche n'est pas blanche, nous sommes là au tout début du XVIIIe siècle, décompose le rayon lumineux au moyen d'un prisme et utilise le phénomène de l'arc-en-ciel pour nommer les différentes couleurs visibles. Il en choisit sept, comme les sept notes de la gamme diatonique. Chez Newton, entre Do et Ré, c'est violet, entre Ré et Mi, rouge, entre Mi et Fa, orange, entre Fa et Sol, jaune, entre Sol et La, vert, entre La et Si, bleu, et entre Si et Do, indigo. On pense au célèbre poème de Rimbaud, voyelle, A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu. Alors, sept notes, sept couleurs, sept planètes, sept jours de la création en comptant le jour de repos. Mais évidemment, tout cela relève de la subjectivité pure. Il est impossible de démontrer scientifiquement la moindre correspondance entre son et couleur. Newton est un homme de son époque qui croit en une cohérence entre la création du monde et l'harmonie du monde et l'harmonie des sphères. Cette approche mystique, on la retrouve bien plus tard chez le compositeur russe Alexandre Scriabine, qui au début du XXe siècle, après lecture du poème de Rimbaud, conçoit un projet conjuguant couleurs et musique. C'est Prométhée ou le poème du feu, 1910, pour lequel il imagine même un clavier à lumière. Il y a une autre perception de la relation regard-écoute-peinture-musique, la perception romantique, initiée par le poète Goethe. Au lieu de considérer l'aspect physique de la couleur, il met en avant une approche plus sensorielle, fondée sur la physiologie de la vision. Les couleurs ne sont plus associées à des sons, mais à des sensations et des qualités de l'esprit humain. Le rouge, le jaune et l'orange sont lumineux, chaleureux, nobles et symbolisent la vie. Le vert, le bleu et le violet évoquent le sombre, le froid, le trivial et sont synonymes d'inquiétude, de faiblesse, de nostalgie. Au XIXe siècle, les peintres et les musiciens refusent la séparation qui est pour eux arbitraire des arts et tentent de créer un art total, une œuvre intégrale sollicitant tous les sens. On pense à Richard Wagner, bien sûr. Et Charles Baudelaire écrit, après avoir entendu et vu la première parisienne de l'opéra Tannhäuser, « Ce qui serait vraiment surprenant, c'est que le son ne pût pas suggérer la couleur, que les couleurs ne puissent pas donner l'idée d'une mélodie, et que le son et la couleur fussent impropres à traduire des idées. » Et pourtant, la musique ne peut être perçue que dans la durée, alors que le regard peut embrasser d'un coup toute l'œuvre du peintre, si bien que la concordance paraît impossible. Pourtant, nous venons de voir que peintres et musiciens ne s'étaient pas privés de les faire concorder. Peinture inspirée de musique, musique inspirée de peinture, création fusionnant musique et art plastique. Les œuvres résultant de ces mises en correspondance procèdent d'une mystérieuse alchimie que le grand critique musical du XIXe siècle, Joseph d'Ortigues, tente de définir ainsi. Cette faculté particulière à la musique de faire naître la vision des choses insonores, de représenter la lumière, les ombres, les ténèbres et jusqu'au silence même, est un des mystères de cet art. Et il poursuit, la musique n'a pas la faculté de peindre au moyen des timbres et des nuances de sons de divers instruments, mais par les impressions et les sensations qu'elle fait naître, elle réveille le sentiment ou le souvenir des impressions et des sensations que produisent en nous les objets de la nature ou de l'art. Selon Joseph d'Ortigues, le mystère de la musique repose sur trois piliers. Le compositeur et sa volonté expressive, l'interprète et sa recherche, son regard pour faire vivre l'œuvre, et enfin nous, public, dans notre mode de perception de l'œuvre. La recherche commune des compositeurs et des peintres est une recherche d'harmonie supérieure, résultant d'une réflexion philosophique, d'une quête spirituelle ou d'un environnement culturel qui influence une démarche esthétique. Ce qui relie les peintres, les poètes et les musiciens, c'est le sentiment de partager les mêmes aspirations. En débordant de leur cadre d'origine, les créateurs se nourrissent mutuellement, sur le plan sensible, impression, émotion, comme sur le plan technique, rythme, construction, couleur. Les interprètes ont un rôle primordial. Ce sont eux qui mettent en correspondance les sons, les rythmes et les couleurs. Ils travaillent sans relâche leur instrument pour restituer le moment venu toutes les nuances d'une œuvre, éclat, brillance, chaleur, clarté, pureté, mais aussi couleurs sombres, froides ou éteintes. Le pianiste Roger Muraro nous en a donné une belle démonstration dans son interprétation des 20 regards sur l'enfant Jésus d'Olivier Messiaen. Les interprètes font encore plus que ça. Ils nous donnent à percevoir la composition de l'œuvre, ils nous en révèlent l'architecture, l'agencement des différentes lignes. L'interprète est l'indispensable auxiliaire du compositeur. Il a plusieurs manières de regarder l'œuvre qu'il va jouer. Il analyse la partition, fait des recherches historiques, lit la correspondance des compositeurs, les écrits des élèves, il lit de la poésie, il recherche des couleurs qui correspondent à l'idée qu'il se fait de l'univers sonore de l'œuvre. Et il met sa sensibilité, son instinct, au service du moment présent, celui du concert, pour, une fois terminé et digéré tout le travail en amont, donner vie à la musique, lui donner une âme, une sensibilité, toujours en rapport avec celle de l'époque dans laquelle elle est jouée, puisque cette sensibilité est celle des musiciens qui sont en train de jouer. Certains, comme le violiste Laurence Dreyfus, qui joue la musique des XVIe et XVIIe siècles, font une recherche historique poussée, puis ajoutent des éléments de jeu qui correspondent à leur sensibilité de musiciens actuels. Laurence Dreyfus et son consort de viol fantasme pratiquent à la viole un jeu plus vibré que celui de l'époque Renaissance et baroque pour retrouver la chaleur qui émanait des sonorités des cordes des grands quatuors du début du XXe siècle, comme le quatuor Calvé. Avant lui, le violiste Jay Bernfeld a trouvé son inspiration dans le bel canto italien. C'est un grand admirateur de la soprano Renata Tebaldi et sa viole chante. D'autres musiciens, comme Mario Caroli, le flûtiste, mettent de côté l'aspect historique d'une œuvre pour favoriser une interprétation plus personnelle où l'instinct, le plaisir du jeu, l'ivresse sonore prédominent sur le respect du texte écrit. Pour la musique d'aujourd'hui, les interprètes ont le privilège de pouvoir échanger avec les compositeurs dont ils jouent et souvent créent les œuvres. Échange à double sens. Le compositeur lance à l'interprète un défi et le porte à évoluer dans son jeu, tandis que l'interprète, par sa vision subjective de l'œuvre, ouvre au compositeur de nouveaux horizons sur son travail. Le flûtiste Mario Caroli a ce type de relation avec le Britannique Brian Ferneyhough, l'Italien Salvatore Sciarrino, la Roumaine Doina Rotaru. Le compositeur Eric Tanguy, lui, a cette relation avec la violoncelliste Anne Gastinel et la pianiste Susanna Bartal. Roger Muraro, qui a très bien connu Olivier Messiaen, interprète comme personne l'œuvre pour piano du compositeur, particulièrement les 20 regards sur l'enfant Jésus, comme ceux d'entre vous qui assistaient au concert de mercredi soir s'en souviennent. Son interprétation est extraordinairement fouillée, très aboutie, avec à chaque fois des éclairages légèrement différents. Le troisième pilier du mystère de l'alchimie musicale, c'est nous, spectateurs, auditeurs. Notre attitude esthétique permet à notre oreille qui écoute et à notre œil qui contemple de s'en rencontrer dans une émotion commune. Notre attitude esthétique à chacun d'entre nous active une pensée qui tisse des liens entre des impressions, des sensations et des émotions, des idées, des images intérieures. Nous sommes sollicités au concert par le spectacle des musiciens à l'œuvre, et c'est fascinant de regarder les mouvements des corps, l'expression des visages, et lorsqu'il s'agit d'un groupe de musiciens, de suivre comment la musique passe des uns aux autres, les regards qu'ils échangent, leur complicité palpable, comme avec le Quatuor Van Cuyck ou l'ensemble Fantasme. Le regard du spectateur sur les musiciens lui permet d'être partie prenante du concert, engagée physiquement. Mais on peut aussi choisir de fermer les yeux pour ne retenir que le regard intérieur, se laisser pénétrer par la musique, l'inhaler, comme disait André Jolivet, d'en ressentir les vibrations, de la suivre avec plus d'intensité puisque le regard ne vient pas distraire l'ouïe, et laisser émerger des visions intérieures, fugitives ou prégnantes, des lambeaux d'images, de souvenirs, tous convoqués par les émotions que suscite en nous la musique. Je terminerai par ces quelques vers de Baudelaire, tirés de son poème Correspondance. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Ce à quoi Claude Debussy répond : les sons et les parfums tournent dans l'air du soir.